Bonjour à chacun. Je respire un peu. Et si quelqu'un veut respirer ici même la semaine prochaine pour faire la présidence de culte, qu'il vienne me voir ou qu'il aille voir John, c'est pas un souci. Encore une fois, bienvenue aux quelques visiteurs que nous avons ce matin et à tous ceux qui se retrouvent ici, ce matin, ou qui se joignent à nous, en tout cas c'est ce qui était prévu, par un autre moyen que nous n'avons pas pu mettre en œuvre finalement. Et à ce sujet, je peux vous dire quand même que le message sera mis sur YouTube cet après-midi, ou en fin d'après-midi plutôt. Toujours est-il que nous sommes ensemble, que nous nous plaisons à être ensemble, même si nous avons diminué ce matin l'assistance par deux ou trois. Vous pouvez savoir, vous savez déjà que vous êtes en présence d'une Église réelle et pas virtuelle, qui a des épreuves ou subit des épreuves réelles, et des personnes qui ont foi en un Jésus qui est réel et pas virtuel et qui est présent avec nous. Et pour cela, nous nous réjouissons. Alors nous voulons prier le Dieu de miséricorde ensemble avant d'aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes encouragés en étant de nouveau ensemble ce matin et nous recherchons ta face. L'anxiété et la crainte que nous ressentons autour de nous, et qui peut-être des fois est la nôtre, montrent notre besoin de recevoir ton secours. Nous te prions, Seigneur, de nous parler ce matin, de nous encourager et de nous équiper pour les temps à venir. Que ta grâce soit sur nous et que tes promesses s'accomplissent en leur temps. Amen. Écoutons justement la promesse du Seigneur. Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Parole du Seigneur, promesse du Seigneur. La souffrance, c'est vrai, finit par être épuisante. Et le texte biblique nous invite donc à considérer la miséricorde de Dieu à notre endroit et ses conséquences dans nos vies. Quand bien même nous éprouvons un sentiment d'injustice quand le mal nous atteint, il faut nous rappeler Jésus, le juste, qui a pourvu par sa mort le pardon de nos fautes, pardon immérité, et accordé tout de même. Dieu le Père, l'auteur de toute grâce, a donné le Christ avec lequel nous sommes unis. Dans quelques instants, nous lirons un passage de la première épître de Pierre au chapitre 2 qui nous montrera justement la grâce de Dieu en action par Jésus-Christ. Mais je vous propose de débuter tout naturellement notre lecture de l'épître en portant notre attention ensemble sur les premiers mots de l'apôtre dans cet écrit, des mots exposés d'abord dans le contexte de ses premiers lecteurs, auxquels il écrivait, bien sûr, et que nous pouvons lire aujourd'hui avec intérêt dans notre contexte particulier. Je lis ces quelques versets dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Et au verset 6, voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur aux yeux de Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Avec ces mots, je pourrais conclure déjà une parole d'encouragement. Parce que vous avez bien entendu la promesse du Seigneur. Votre foi qui a résisté l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse que l'or épuré. Elle vous vaudra, nous dit-il, louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et malgré l'évocation de la souffrance par cette citation de l'apôtre Pierre, et malgré l'actualité de notre expérience, tout n'a pas été sombre ces temps derniers, même si certaines des choses que je vais citer maintenant peuvent paraître, bien sûr, de moindre importance par rapport à tout le reste. Je vais donc évoquer brièvement quelques détails seulement de mon expérience personnelle avant tout. Je ne veux pas l'attribuer à tout le monde. Je ne peux pas me le permettre, mais je ne cacherai pas les grâces du Seigneur, au moins celles que j'ai reçues, ou quelques-unes. Parce que d'abord, je suis reconnaissant par le fait que je n'ai pas été atteint par la maladie. Et au milieu de toutes les contraintes imposées à tous, j'ai remarqué que pendant cette période de confinement, nous avons retrouvé le calme. En tout cas, là où je suis, où j'habite. Pas un bruit, sinon le chant des oiseaux, et parfois celui des tondeuses à gazon, quand même. Nous avons eu l'autorisation aussi de nous balader, et nous ne l'avons jamais fait autant que dans cette période. Et j'oserais dire même que depuis le début du déconfinement, nous marchons beaucoup moins, nous nous sortons beaucoup moins. Nous avons été aussi au bénéfice de quelques initiatives commises par des membres, alors commises, entendez-le bien, par des membres de l'Église pour notre bien à tous. Quelques-uns ont enregistré des chants, diffusés aussi sur YouTube. Et le moment arrivé, nous avons vécu la joie de nous retrouver ensemble, soit en face à face pour quelques-uns, soit par visioconférence même. Un procédé donc qui tourne encore, bien sûr, et qui tournera encore pendant un moment, à mon avis, qui a des côtés pratiques, d'ailleurs. Et enfin, nous avons eu la possibilité de lire dans les pensées de nos compatriotes sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai, là, je ne suis pas sûr de vraiment considérer ce dernier point comme étant totalement positif, quand même. Et peut-être a-t-il plutôt constitué une part des souffrances qui nous ont été infligées. Dans les exposés, les débats impromptus des réseaux sociaux, on a pu lire un sujet après l'autre, une exhortation à persévérer qui faisait du bien. L'expression de la compassion des personnes vis-à-vis des autres, et c'était bénéfique. Nous avons pu lire une exhortation à persévérer dans la foi, vraiment, des paroles bienfaisantes, la compassion. Les néo-spécialistes médicaux aussi, nous les avons croisés, ceux-là, qui ont connu rapidement le médicament efficace, paraît-il. Les complotistes, dans tous les domaines, qui, eux, avaient tout prévu. Et ceux qui savent pourquoi tout ça a eu lieu et comment ça va se terminer. Et tout cela aussi, des fois, est épuisant. Alors, quels repères avons-nous? Est-ce que nous les prenons tous là? Où est-ce que nous faisons le tri? Qui pouvons-nous croire aujourd'hui? Qui est fiable parmi ceux qui proclament leur vérité ou semblent détenir le plus gros morceau du grand puzzle de la destinée humaine et donc forcément le plus important de tous? Où sont nos repères aujourd'hui? Rappelons encore une fois cette parole de l'apôtre. Votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse que l'or épuré. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors pourquoi ne pas revenir aux fondamentaux de la foi? Pourquoi ne pas considérer la parole de Dieu, la parole créatrice, la bonne nouvelle du salut pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Et cette parole, je vous en propose une ce matin, qui nous ramène à Christ et qui figure dans la première épître de l'apôtre Pierre à nouveau, mais au chapitre 2, cette fois versets 21 à 25. Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort par rapport à nos péchés, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et je relis une phrase de ce texte que vous avez entendu. Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous voilà donc en recherche d'un repère au milieu de l'épreuve. Eh bien, Christ est notre exemple, tout simplement, dit l'apôtre. Il est bon de le rappeler. Après tout, nous prenons exemple sur toutes sortes de personnes au cours de notre vie. Nos parents, déjà, si du moins une relation de confiance et d'amour s'est installée entre eux et nous. Mais aussi toute personne, connue intimement ou non, qui a prouvé qu'elle est digne de confiance. Toute personne qui peut-être a emprunté un chemin comme le nôtre, qui défend les mêmes idées que les nôtres, ou nous aide à avancer sur notre chemin à nous. Eh bien, voilà les exemples dans la vie, dans nos vies, parmi d'autres. Pour revenir au contexte de la foi, j'ajouterai simplement l'exemple proposé par l'apôtre Paul écrivant ceci « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul tout entier tourné vers le Christ qui s'est révélé à lui sur un chemin et nous invite à être ses imitateurs et ainsi à imiter le Christ lui-même. Alors Paul, bien sûr, ne se revendique pas comme un intermédiaire entre le Christ et nous, mais il redirige notre attention vers le seul exemple qui soit parfaitement sûr, le Seigneur qui ne change pas. Avons-nous raison de fonder notre foi sur le Christ? Une chose est certaine, déjà nous savons que Dieu existe. Une autre chose est certaine, c'est que cette assurance n'est pas suffisante en elle-même, parce que la parole de Dieu nous dit que les démons aussi croient que Dieu existe et qu'ils tremblent. Alors la foi a davantage à revendiquer que le simple fait de croire. Elle prend en compte les promesses de Dieu pour ceux qui croient, comme celles que nous avons déjà lues ce matin et que je répète, « Votre foi a résisté à l'épreuve. » Qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse que l'or épuré. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur. Votre foi vous vaudra tout cela. Croire, cela dépend de nous. Mais la promesse que j'ai citée et toutes les autres découle de la grâce que Dieu nous accorde par son Fils. Alors, pour que vous soyez au bénéfice de ces promesses, ce matin, je ne peux pas vous donner de conseils aussi bons puissent-ils paraître. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire de votre vie ce matin, aussi perspicace peut-être soient ces propositions. Je ne peux pas non plus vous exhorter à suivre une bonne morale ce matin, aussi sensées soient ces incitations, tout en vous disant que vos choix, et donc quelque part les miens, vous conduiront à recevoir louange, gloire et honneur le jour où Jésus-Christ apparaîtra, parce que tout cela, vous le recevez par grâce, si vous persévérez dans la foi. Et si je cédais à la tentation de vous dire que vous recevrez vous-même louange, honneur et gloire en récompense de votre bon comportement et de votre bonne morale, eh bien, tout simplement, je renverserai le cours des choses en plaçant votre amour et votre obéissance à Jésus avant l'amour qu'il vous accorde par pure grâce. La vérité, c'est que Dieu nous a aimés, chacun de nous, le premier, et que nous recevrons louange, honneur et gloire par grâce imméritée et non pas comme un salaire correspondant à une œuvre accomplie. Dieu m'a aimé et je l'aime en retour. Tout vient de Dieu, le Père de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas obéir au commandement du Seigneur. Je vous dis que tout provient de Dieu, le Père de Jésus-Christ. Tout vient déjà de la confiance de Dieu en son Fils, comme cela nous est relaté au jour du baptême de Jésus. Et rappelez-vous cette parole venue des cieux, « Celui-ci, dit le Père, est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. » Et tout vient de Christ aussi et de sa fidélité exprimée à son Père au jour de l'arrestation. Rappelez-vous maintenant cette parole du Fils dans le jardin de Gethsémané, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » S'il n'y avait eu l'amour du Père, l'amour de Dieu le Père, la confiance du Père et la fidélité du Fils, eh bien rien ne se serait passé qui nous aurait conduit à recevoir le pardon de nos fautes par grâce et à bénéficier de tout ce que l'apôtre Pierre nous transmet par sa parole, louange, gloire et honneur. Tout ça, nous n'aurions aucune espérance de le recevoir. Alors, si nous devons être influencés dans la vie, il est sans aucun doute préférable de se fier au Christ et de suivre ses traces. Au Christ dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, qui n'a pas rendu l'insulte, nous dit Pierre, qui n'a pas menacé, mais qui est mort à notre place, accomplissant la justice de Dieu, qui a guéri nos blessures et qui est aujourd'hui notre berger et le gardien de nos âmes. Revenons donc sur l'exemple que nous avons en Christ, ou pour utiliser un autre terme, peut-être au modèle que nous avons en Christ. En quoi le Christ est-il un modèle pour nous aujourd'hui ? Eh bien, nous pouvons considérer à nouveau le dernier verset que je viens de relire. Le Christ ne trompe pas, le Christ n'insulte pas, le Christ ne menace pas. Et voilà pour ce qu'il ne fait pas, mais il est dit aussi positivement qu'il a œuvré pour la justice, pour nous relever, pour nous conduire, pour garder nos âmes. Et combien c'est important de savoir cela dans cette période. Or, le prophète Ésaïe lui-même annonce le Christ comme étant un serviteur souffrant, méprisé, abandonné des hommes. Et l'évangéliste Matthieu, à la fin de son évangile, ajoute que les ténèbres régnèrent sur toute la terre au moment de la crucifixion de Jésus. Alors sur le chemin qui allait conduire Jésus de son arrestation à sa crucifixion, effectivement, Jésus n'a pas montré de haine en insultant ou en menaçant. N'a-t-il pas choisi, par exemple, de se taire devant le Sanhédrin qui l'accusait ? Ne nous avait-il pas dit quelque temps auparavant d'aimer nos ennemis et non seulement nos amis ? N'avait-il pas prononcé aussi cette phrase inoubliable « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre ?» Il avait vécu tout cela. Il aurait pu insulter ou menacer, mais il ne l'a pas fait. Ce n'était pas dans sa nature, si vous voulez. Et pourtant, nous savons que Jésus connaissait des émotions, et qu'il ne les réprimait pas même. Comment les gérait-il alors, puisqu'il n'a ni insulté ni menacé ? J'ai déjà eu l'occasion de vous dire ici que nous ne pouvons pas nous-mêmes vivre sans émotions, la difficulté étant plutôt de savoir comment ne pas les laisser nous gouverner. Et par ailleurs, rappelez-vous que Jésus était venu accomplir la mission que son Père avait désigné pour lui et qu'il avait en vue notre salut et le don de la vie éternelle, des réalités spirituelles. Eh bien, notre réalité terrestre, il faut s'en souvenir, ne nous définit pas entièrement. Nous sommes des êtres de foi et d'espérance qui voient plus plus loin que la réalité terrestre. Par la foi, nous reconnaissons que ce qui nous constitue ne vient pas que de nous-mêmes. Ce qui fait de nous des personnes, ce n'est pas la somme de ce que nous avons produit pour nous-mêmes, des influences familiales, des influences culturelles et des effets des événements subis. Ce qui fait de nous des êtres humains complexes et si différents les uns des autres vient d'une réalité plus profonde et qui est spirituelle. Nous avons été créés de façon merveilleuse et unique par Dieu. Et tous, malgré nos différences, nous revendiquons le même Père, Dieu créateur et sauveur, par son Fils Jésus-Christ, notre frère. Et c'est Christ qui, au cœur de l'épreuve, est passé de cette parole « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» à cette autre parole « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Adressées toutes deux à son Père. Les émotions, la tristesse de la séparation d'avec les disciples, d'une part, d'avec sa mère aussi, ont laissé place à un sentiment de paix chez le Christ, que nous pouvons avoir aussi, dans quelques circonstances que nous rencontrons. Si le projet des hommes de dominer s'est exprimé dans la violence contre Jésus, la victoire de Jésus ne s'est pas exprimée par la colère contre ses exécuteurs, mais dans le désir de les savoir pardonner pour leurs péchés. À la croix, Jésus a porté sur lui le péché. En ne répondant pas aux insultes par les insultes, à la violence subie par une violence rendue, en refusant d'employer les armes de l'adversaire, de l'imiter, en refusant de reproduire son exemple, eh bien Jésus disqualifie le mal, la violence et le péché. Et à bien considérer l'amour du Seigneur pour tout être créé et son œuvre entière pour l'humanité, les colères et les violences de toutes sortes ne peuvent que s'éteindre en nous si nous considérons vraiment le Christ comme un exemple à suivre. Jésus n'a pas été simplement un sage qui a traduit de belles et profondes pensées, mais il a vécu ce qu'il a dit dans sa chair et dans sa vie, jusqu'à la donner. Ainsi, s'il est vraiment notre exemple, notre modèle, nous pouvons être, nous aussi, déchargés de toute colère et nous pouvons connaître, en le vivant, le véritable amour qui nous est donné. Je relis une dernière fois cette parole pour nous aujourd'hui. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge, lui qui dans son propre corps a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures vous ont guéri. Car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alors que l'amour du Christ, sa patience, son obéissance et ses bénédictions fidèles soient pour vous chaque jour un exemple et votre inspiration pour la vie. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous prions. Seigneur, Dieu du ciel et roi de l'univers, tu es rempli de toute grâce et tu nous donnes une espérance qui pour nous est une certitude. Par ton Fils, nous avons reçu le pardon de nos péchés et nous sommes libres de refuser le mal, de ne pas le commettre. Seigneur, nous voulons prendre exemple sur ton Fils dans tout ce qu'il a fait, dans toutes les attitudes qu'il a eue lorsqu'il a rencontré le mal sur la terre pendant toute la période de son ministère. Nous ne voulons pas maudire, mais nous voulons bénir. Nous voulons être actifs là où nous sommes, Seigneur, tout autour de nous, et transmettre ta parole avec zèle. Nous voulons faire ce qui est bien. Que dans nos circonstances à nous, où nous souffrons, nous puissions être des témoins de ce qui est juste. Nous puissions recevoir la paix et transmettre la paix autour de nous. Nous te reconnaissons, Seigneur Dieu, comme notre Créateur, et nous reconnaissons ton Fils comme notre Sauveur. Que ta grâce soit sur nous et que tes promesses s'accomplissent. Nous attendons le jour où notre Seigneur Jésus reviendra dans la gloire pour nous donner aussi gloire et honneur. Par ta grâce. Amen.